Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle édition d'Ensemble qui vous est présentée par votre serviteur Christophe Jubien. Depuis octobre 2016, le Collège Sainte-Marie à Chartres est inscrit dans un projet international organisé par l'UNESCO auquel participent 25 pays, soit 240 écoles dans le monde, dont seulement 10 en France. Le but de ce projet, intitulé « Aujourd'hui pour demain », est de sensibiliser les jeunes aux enjeux du réchauffement climatique, agir pour atténuer le réchauffement, augmenter les capacités d'adaptation des jeunes face au réchauffement climatique et leur apprendre à transférer les bonnes pratiques acquises au collège dans leur milieu de vie. Nous avons rencontré les acteurs de ce projet lors de son inauguration. C'était vendredi dernier au Collège Sainte-Marie, en présence notamment de Jean-Marie Sepsot, qui, au sein de l'UNESCO, est le responsable national du développement durable.
Alors, le projet Aujourd'hui pour demain vient d'être inauguré en présence de très nombreux enfants et de quelques adultes très bien informés et très responsables. Devant moi, Monsieur Jean-Marie Sepsot, qui va décliner tous ces titres, ils sont nombreux. Il est important, à mon avis, de les décliner.
Alors, je suis enseignant déjà de technologie au Collège Michel Chasles d'Épernon et je suis responsable développement durable pour l'Académie pour le département d'Eure-et-Loire. Je suis depuis 2009 le référent national développement durable pour les écoles associées à l'UNESCO France. Et j'ai la chance depuis le mois de novembre dernier d'être le coordonnateur national du projet Aujourd'hui pour demain auprès de la Commission nationale française à l'UNESCO et donc auprès de l'UNESCO. Ouais.
Est-ce que vous pouvez nous décliner, enfin nous expliquer exactement de quoi il s'agit? C'est quoi ce projet Aujourd'hui pour demain?
Alors il s'agit, au travers de l'éducation, de transformer la société pour répondre à un des enjeux majeurs qui est celui du réchauffement climatique. Et permettre à différentes phases, donc sensibiliser le public, permettre une adaptation au réchauffement climatique qui est en cours, et maintenant on ne peut plus lutter contre, mais on ne peut que s'adapter, et permettre peut-être aussi de trouver de nouvelles actions, de nouvelles voies, pour permettre à chacun de trouver quelques solutions.
Alors là, on a vu une déclinaison locale de ce projet, il y en a d'autres évidemment, j'imagine.
Oui, nous sommes 10 écoles en France et il y a au total 250 écoles dans le monde. Nous avons la chance en France d'avoir plus de 9000 jeunes engagés et plus de 900 enseignants ou personnels autres qui se sont eux aussi emparés du projet.
Vous avez montré la dimension internationale du projet. Rappelez-nous peut-être quand même, pour nos auditeurs qui ne le savent pas, ce qu'est l'UNESCO.
Ah, l'UNESCO, cette grande maison, l'UNESCO est là pour promouvoir la paix à travers l'éducation, à travers les sciences. L'UNESCO, c'est une organisation qui dépend de l'ONU et notre raison d'être, c'est la paix, c'est construire cette paix au travers de valeurs universelles que l'on partage ici au Collège Sainte-Marie comme 180 autres établissements en France.
Vous saviez déjà ce qui se passait ici, vous le connaissiez, cet établissement?
Oui, alors j'ai la chance depuis plusieurs années déjà d'être en lien avec des enseignants de cet établissement. Nous nous retrouvons parfois à Chartres sur certaines manifestations, comme les journées jeunes chercheurs ou le travail qui est mené au conseil départemental. Et donc j'avais plaisir effectivement à déjà suivre cet établissement et voilà, c'est un établissement extrêmement dynamique sur l'agglomération chartraine.
Est-ce que c'est difficile à faire admettre aux enfants? On se doute que ça doit bien aller, non, le développement durable. Mais les adultes, c'est quand même peut-être plus difficile. Et puis on est dans un système économique qui ne favorise pas forcément aussi, non, le développement durable.
Alors je crois que depuis une décennie maintenant que je suis un petit peu ce travail, je m'aperçois tout de même que, alors certes les enfants sont... Je serais tenté de dire tout de suite convaincu, mais les adultes le sont de plus en plus. Ils s'aperçoivent que le climat, effectivement, change, au-delà de la météo, qu'il ne faut pas confondre, hein, météo et climat, mais le climat change. On s'aperçoit que la faune et la flore sont eux aussi en train de se transformer. Et puis, il y a aussi une volonté d'aller sur une alimentation durable, ce qui est le cas pour le parrain de l'établissement. On cherche à aller vers d'autres valeurs et on s'aperçoit qu'il est urgent de le faire.
Oui. Rappelez-nous quand même ce que c'est que le développement durable. C'est un terme assez vague, un terme générique, qui comporte combien d'aspects?
Alors c'est vrai qu'il est parfois galvaudé, on dit que c'est un fourre-tout. Il s'agit en fait de quatre axes majeurs. On travaille sur la notion d'économie, la notion sociale, la notion environnementale et la notion culturelle. On ne trie pas ces déchets de la même façon à Chartres qu'à Paris, on ne trie pas ces déchets de la même façon à Paris qu'à Marseille. De la même façon, la flore est différente à Marseille et qu'à Lille. Voilà. Et donc il faut prendre en compte tous les aspects de la vie du citoyen pour pouvoir penser aux générations futures et leur permettre de léguer une planète la plus viable possible.
Alors évidemment, on demande à chacun, à chaque citoyen, ce qui est normal, de consommer différemment, mais on demande, si j'ai bien compris, aux entreprises, aux industries, de produire différemment, et ça c'est quand même beaucoup plus difficile, non ?
Alors, sur la région chartraine, vous avez des entreprises qui actuellement sont engagées. Tous les grands groupes possèdent maintenant des services de développement durable. Pourquoi ? Parce que, au-delà des économies que cela peut produire, il y a aussi une attente, certes, du consommateur. Et il y a une, je crois, une prise de conscience que les ressources ne sont pas. Les ressources sont finies, elles sont épuisables. Et donc, il faut rapidement. Comment dire, en prendre conscience et agir. Vous avez de nombreux industriels qui, par exemple, ont supprimé les suremballages, se rendant compte que, d'abord, il y avait un problème de poids, il y avait un problème de coût, et donc il fallait absolument tenir compte de cela. Et puis, vous avez entendu les problématiques locales connues autour de l'eau, parfois, voilà, on les connaît, malheureusement. Il n'y a pas d'acteur précis responsable de cela. Je crois que c'est une responsabilité collective. Et donc les industriels comme les autres sont amenés petit à petit à agir dans ce sens.
Est-ce que le développement durable peut aussi ? On est en France, il y a beaucoup de chômage, créer des emplois ?
Oui, alors le gouvernement actuel et le précédent, comme celui d'avant d'ailleurs, avait parlé de transition énergétique, de transition écologique. On est amené petit à petit à le faire. On a vu d'ailleurs un conseil départemental qui est extrêmement engagé. Si on rappelle Crucet Village, qui est un des exemples, mais on voit bien qu'il y a une volonté. On ne se promène plus en Eure-et-Loire, et je suis Aurélien, on ne se promène plus en Eure-et-Loire sans voir ces fameuses éoliennes. C'est qu'il y a une volonté aussi d'aller vers un autre type d'énergie. Et donc il faut poursuivre dans cette voie.
Sur le plan économique, on est dans une économie mondialisée, néolibérale. Est-ce qu'il faut changer ça aussi selon vous ?
Ah, alors il serait difficile de... Je ne vais pas m'avancer pour... Voilà, par rapport à l'UNESCO, je ne vais pas m'avancer sur ce sujet, mais il est vrai qu'il y a une évolution qui doit être menée, ça j'en suis certain. On doit aller vers une autre politique. Ça ne veut pas dire nécessairement abandonner tous les schémas, mais les faire évoluer.
Vous êtes confiant pour l'avenir alors ?
Alors tout dépend. Je suis confiant, effectivement, je crois dans les jeunes. Je crois dans cette capacité de s'adapter. Quant au réchauffement climatique, il est engagé. Je vous ai dit effectivement en tout début d'entretien que le réchauffement est là. Il n'est plus question de lutter contre, mais de s'adapter au réchauffement climatique. Les chiffres des scientifiques sont clairs. Nous allons vers un réchauffement supérieur à 2 degrés. Les engagements de Paris, on va tenter de les tenir, bien entendu, mais ça va être extrêmement compliqué. Il faut donc agir chacun à son niveau pour tenter de réduire au maximum l'impact de ce réchauffement.
Le parrain de cette opération projet aujourd'hui pour demain, c'est Bruno Pison, que deux petites élèves du Collège Sainte-Marie ont rencontré à l'Assemblée Junior dernièrement à Paris. Bruno Pison a fait un grand voyage pour venir nous voir, puisque vous habitez, Bruno, au Mexique. Et si vous êtes au Mexique, c'est au terme d'un long voyage, d'une longue démarche physique, existentielle, mais aussi intellectuelle, parce que l'alimentation durable, qui est votre passion et qui est aujourd'hui votre métier, eh bien, elle n'est pas venue tout seule, elle est venue déjà il y a longtemps. Racontez-nous ça.
Bonjour. Oui, effectivement, j'ai fait un tour du monde de l'alimentation durable pendant 430 jours dans 35 pays à la rencontre d'une centaine de personnes, d'acteurs de l'alimentation durable. Donc c'était entre octobre 2013 et décembre 2014. L'objectif, c'était de rencontrer des producteurs, des restaurateurs et des gens qui travaillent dans la valorisation des déchets organiques pour montrer que l'alimentation, c'est un cycle. Ça veut dire qu'en fait, on produit pour manger. Une fois qu'on a mangé, on a des déchets qui normalement devraient revenir à la terre pour pouvoir produire de nouveau.
Et cette prise de conscience, comment elle est arrivée pour vous ?
Alors, la prise de conscience, je pense qu'elle s'est faite petit à petit. Tout d'abord, ça a été un choix dans mes études. J'ai étudié le développement durable en France et également au Québec, à l'université de Sherbrooke au Québec. Et puis suite à ça, en fait, j'en ai fait mon métier vu que j'ai travaillé pendant 5 ans dans la restauration collective en tant que responsable de développement durable.
Alors comment vous avez préparé votre voyage ? Vous saviez déjà où vous vouliez aller et pourquoi vous vouliez y aller évidemment ?
Alors j'avais une très bonne idée de là où je voulais aller. En fait je devais être en octobre 2014 au Québec parce que je devais fêter mon anniversaire avec des amis. Donc en fait ça m'a tracé mon chemin assez rapidement et je voulais aussi rejoindre l'Asie par la terre. Donc en fait c'est pour ça que j'ai pris le Transsibérien pour aller jusqu'à Irkoutsk et ensuite descendre la Chine et redescendre l'Asie jusqu'à l'Australie.
D'accord, vous avez fait tout ça en train là ?
Alors j'ai fait Paris-Shanghai par la terre et une très grande partie en train, après également en bus ou en voiture.
Alors à l'issue de ce voyage, il y a un petit livre qui est paru qu'on peut trouver ici au CDI du collège. Je ne sais pas si on peut le trouver ailleurs d'ailleurs, ça s'appelle Le Petit Chef.
Alors oui, c'est Le Petit Chef. Le Petit Chef, en fait, c'est un livre que j'ai écrit suite à mon voyage qui est paru en mai 2016. Et l'objectif du Petit Chef, c'était de pouvoir raconter ce que c'est qu'une alimentation durable de manière simple à des enfants mais également à des adultes. Donc à chaque fois que vous tournez une page, vous êtes dans un nouveau pays, vous rencontrez une nouvelle personne qui vous explique un nouveau sujet de l'alimentation durable. Donc il y a des sujets comme le gaspillage alimentaire, le compost, l'agroforesterie, l'aquaponie qui sont par exemple des sujets un petit peu plus compliqués mais expliqués de manière simple pour que des enfants puissent le comprendre. Et c'est un livre qui a été édité par les éditions Ella Édition, donc un éditeur local d'Eure-et-Loire. Donc en fait on peut le retrouver dans énormément de points de vente en Eure-et-Loire.
Oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais vous êtes natif de Pont-Gouin. Quels sont les gens que vous avez rencontrés qui vous ont marqué durant votre voyage ?
Alors il y en a beaucoup, évidemment, mais si je devais prendre par exemple un exemple, je peux parler de Mama Pirou qui vit sur l'île de Pâques. Donc déjà d'être allé sur l'île de Pâques, c'est assez incroyable, et de rencontrer quelqu'un qui protège son île, qui fait du recyclage. En fait elle a monté le centre de recyclage de l'île de Pâques, Mama Pirou.
Est-ce qu'on apprend beaucoup finalement ? Est-ce que vous avez privilégié le contact avec des cultures vraiment natives par exemple dans les pays que vous avez visités ?
Alors, par exemple, aux Philippines, j'ai été pendant une dizaine de jours avec vraiment les Philippins. En fait, c'était pendant mon voyage, c'était l'objectif. C'était d'aller à la rencontre des gens qui travaillent et qui vivent vraiment de cette production bio, de cette production locale. Et donc, en fait, j'étais dans une famille de producteurs bio et de producteurs de cacao. Et donc, c'était vraiment très intéressant de pouvoir voir comment ils produisent ce cacao et également le sucre de coco qui est très bon pour les personnes diabétiques par exemple.
Alors finalement on voit que le bio s'impose un peu partout aujourd'hui. Est-ce que c'est partout dans le monde ou est-ce que c'est une lubie de bobos occidentaux le bio ? Non, c'est partout.
Alors si je parle de bio et d'une manière plus générale de l'alimentation durable, c'est l'alimentation durable, c'est vraiment une tendance de fond et mondiale. En fait, moi, il y a une des conclusions de mon tour du monde, c'est il se passe vraiment des choses partout. En fait, on me demandait mais pourquoi tu vas en Russie, pourquoi tu vas en Chine pour voir des choses qui se passent en matière de développement durable. Et en fait, non, il y a beaucoup de producteurs locaux, de producteurs bio. Il y en a de plus en plus. Alors, ils sont en démarche, mais il y a en tout cas une tendance à ce que des petits acteurs en fait fassent des choses en matière d'alimentation durable.
Ouais. Est-ce que ça peut changer la manière de consommer consommer au niveau mondial. C'est-à-dire que les cultures bio, elles sont forcément locales. Il faut privilégier les circuits courts et multiplier les lieux de production.
Bah en fait, c'est déjà en cours. On voit que bah voilà, il y a plein de gens qui font de la permaculture, de l'agroécologie, et qu'il y a plein de petits projets un peu partout, et que c'est en train de changer petit à petit. Alors c'est compliqué parce que voilà, il y a toujours des productions de masse, mais je pense que petit à petit, en fait, on va réussir à changer les choses, et c'est comme ça qu'on va y arriver, en faisant petit à petit, en apportant, comme dit Pierre Rabhi, en apportant sa pierre à l'édifice, en fait. C'est la politique du colibri.
C'est important ce qui se fait ici au collège Sainte-Marie. Vous avez été étonné par le niveau d'exigence des élèves et des profs?
Oui, moi je suis vraiment impressionné par l'engagement de l'établissement et de professeurs, notamment les deux professeurs qui sont en charge du projet développement durable, et impressionné par toutes les actions. Enfin, il y a un jardin sur le collège, c'est assez incroyable d'avoir des jardins comme ça, il y en a de plus en plus. Ça, c'est des choses qui sont aussi par rapport à mon, voilà, quand j'étais moi étudiant ou collégien, bah, on n'avait pas vraiment tout ça, et ça revient de plus en plus dans les écoles, et c'est par l'éducation qu'on va réussir à changer les choses, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, les générations futures qui vont pouvoir changer le monde et prendre les décisions de demain.
Alors, je dis que cette passion pour l'alimentation équitable est devenue votre métier. Vous exercez au Mexique. C'est quoi exactement votre profession?
Alors, voilà, c'est une question qui est toujours compliquée à répondre. Mon métier, en fait, je l'explique en disant que c'est l'alimentation durable. C'est mathématique. Et autour de ça, en fait, j'ai différents métiers qui gravitent. Donc, en fait, j'ai l'envie de transmettre. Donc, c'est pour ça que je fais des conférences pour expliquer ce que j'ai vu pendant mon tour du monde. Ensuite, je suis aussi auteur avec Le Petit Chef. Le Petit Chef est traduit en espagnol, donc je le diffuse maintenant au Mexique. Ensuite, je fais des ateliers dans les écoles pour transmettre aux générations futures. Et puis, à côté de ça, il y a aussi des cours en université, des cours d'alimentation durable. Et la dernière chose, c'est la cuisine, c'est cuisiner. Donc, ça veut dire pouvoir faire du traiteur de l'événementiel, mais de manière durable, avec des produits bio, locaux ou de commerce équitable, par exemple. Et enfin, de faire chef à domicile.
Et vous vivez à Mexico, vous exercez à Mexico?
Je vis à la ville de Mexico, oui.
Une ville, on sait qu'elle est très polluée. Hein.
Alors, la ville est effectivement très polluée, mais vous seriez surpris, en fait, de pouvoir voir à quel point c'est vert, à quel point c'est ensoleillé. Et je pense que c'est une belle ville à découvrir, et qui pâtit d'une image assez détestable, alors qu'il y a pas mal de belles choses à découvrir.
Dernière interview, je trouve que c'est normal de terminer avec vous, Aline et Sophie, qui êtes vraiment celles qui font vivre ce projet aujourd'hui pour demain, et pas que ce projet, mais le développement durable à l'intérieur du Collège Sainte-Marie depuis déjà très longtemps, semble-t-il. Vers qui dois-je me tourner?
Aline. Cela fait déjà vraiment plusieurs années qu'on mène des projets de développement durable dans le collège, sans forcément qu'au début on pense que c'était développement durable, on l'a relié, mais les projets qui étaient menés, la mare qu'on a construit en IDD.
IDD.
Alors à l'époque c'était les itinéraires de découverte, mais c'était les anciens programmes d'il y a déjà plusieurs années. Et puis on a, y a des haies qui ont été mises par mon ancien collègue qui est parti depuis, qui a fait entrer l'établissement dans l'UNESCO avec des élèves. Et puis il y avait le club jardinage aussi qui est né avec un collègue. Nous avions monté ce club jardinage qui accueillait les élèves sur le temps de midi et qui continue à en accueillir. Donc on a eu la chance que les sœurs du collège qui sont responsables, qui sont tutelles, nous ont prêté leur jardin, donc c'est super, on est vraiment dans les très bonnes conditions pour faire du jardinage. Et puis il y a toujours eu des actions solidarité dans le collège, donc ça rentre là-dedans aussi, on peut dire que c'est aussi du social par rapport au développement durable, donc voilà.
Vous n'avez pas attendu finalement la création de labels ou de projets nationaux pour faire ce travail? Vous êtes des écologistes avant l'heure, Sophie Jeannot.
Oui, d'autant plus que les nouveaux programmes quand même nous invitent dans cette éducation, puisque en cinquième, en histoire-géographie par exemple, ils avaient à acquérir la notion des quatre piliers du développement durable. Donc on était sensibilisés, nous aussi, dans une équipe pédagogique, à cette nouvelle notion qui est rentrée il y a une dizaine d'années dans ces programmes. Donc petit à petit, eh bien, partage d'huile finalement, on s'y met.
Et aujourd'hui, vous avez un nombre incalculable de labels. Dites-nous tous les labels que vous avez déclinés tout à l'heure au micro.
Alors, le premier label, le plus ancien, c'est les fameuses gouttes d'eau, discernées par le conseil départemental, aujourd'hui conseil...
conseil départemental, ancien.
Voilà, anciennement conseil général. Nous avons donc eu une dernière goutte d'eau qui est celle en or. Donc aujourd'hui, on entretient en fait ce niveau et nos élèves sont désormais des ambassadeurs. Ouais.
Et puis donc, je le disais, vous êtes à l'UNESCO, donc aujourd'hui, vous êtes un partenaire finalement privilégié. On a vu ça avec Monsieur Sepso.
Oui, depuis presque 10 ans maintenant, mon collègue qui est maintenant parti avait fait entrer l'établissement dans l'UNESCO. C'est moi qui ai récupéré le bébé, si je puis dire. Et puis, nous avons fait un petit peu construit les projets au fur et à mesure. Il est vrai que quand on fait partie de ce réseau UNESCO, on a une formation normalement tous les ans où on rencontre d'autres coordinateurs d'établissements qui parlent de leurs projets, nous montons des projets ensemble. Nous avons la chance d'être dans un département où les projets de développement durable sont très très encouragés, donc à la fois avec Monsieur Sepso qui a beaucoup travaillé avec le conseil départemental, avec d'abord les trophées du développement durable puis les gouttes d'eau, pour encourager tous les établissements à partager, à faire des choses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans un département où à la fois il y a beaucoup beaucoup de collèges labellisés à la fois par le conseil départemental, et puis depuis par cette dernière labellisation que nous avons eue, qui est la labellisation E3D par l'Académie. Donc là, c'est carrément notre ministère de tutelle qui nous labellise, et c'est vraiment très important d'être connu aussi par notre institution, parce que cela montre aussi le travail qui se fait à l'intérieur de nos cours, par la pédagogie, mais aussi par l'exemple. C'est important. Voilà, donc je crois qu'on peut dire aussi que grâce à ça, le conseil départemental qui nous a vraiment vraiment accompagnés, parce qu'on a un petit budget qui nous est proposé tous les ans. Bon, bien sûr, pour avoir cette labellisation, on doit rendre des dossiers, on doit fournir des documents pour montrer qu'on fait des choses, mais c'est intéressant aussi parce qu'on a aussi possibilité de rencontrer des autres établissements une fois par an et de voir ce qu'ils font. Donc voilà, ce qui est important, c'est le partage, et c'est effectivement la notion de ne pas être, c'est pas l'idée d'être les meilleurs, mais d'être ensemble les meilleurs, d'être à tous, de partager pour pouvoir s'améliorer dans chaque établissement.
Et là, on a vu qu'il y avait plus d'une centaine peut-être d'élèves, je ne sais pas combien ils étaient sous le vent.
425 élèves étaient présents aujourd'hui à cette inauguration.
Et très attentifs quand chacun prenait la parole, ça veut dire qu'il y a 400 élèves qui travaillent pour le développement durable dans le collège.
Tous les élèves participent à ce projet, ils ont tous été sensibilisés. Nous avons 850 élèves. Sur ce créneau, du vendredi soir 16-17h, seulement la moitié des élèves du collège avaient cours. Voilà. Donc tous les autres élèves étaient rentrés chez eux parce que l'emploi du temps permettait de rentrer chez eux à 16h. Mais ils sont tous, ils se sentent concernés. Comme je le disais pendant l'inauguration, dès qu'on lance un projet, ils adhèrent.
Il y a un club jardinage, il y a un club science, finalement, et tous ces petits clubs sont plus ou moins partie prenante du projet. Hein.
Tout à fait, oui, oui.
Alors là, vous avez, évidemment, pour ce projet aujourd'hui, pour demain, vous avez planté un arbre. C'est quoi cet arbre ?
Alors, je souhaitais en fait trouver une animation qui permette, pour les élèves qui n'assistaient pas, et puis pour les futures générations, tous les jours, quand ils rentraient au collège, de voir quelque chose. Donc, j'ai réfléchi, et puis à plusieurs enseignants, donc là encore, le collectif a été important. On a fini par se mettre d'accord sur le fait d'aller chercher, de trouver des arbres morts, et de pouvoir, en fait, embellir cet arbre par des feuilles qui n'allaient pas tomber à l'automne, puisqu'en fait nous y avons accroché des feuilles plastifiées qui représentent les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc sur chacune des feuilles, il y a une action menée dans le collège qui contribue à notre projet, en particulier aussi au projet Aujourd'hui pour Demain.
Ouais. Alors il y a des projets qui sont aussi un peu humanitaires, il n'y a pas que le
développement durable, et bien sûr, enfin, nous rappelons les quatre piliers, social, environnemental, économique et culturel. Et il est important de, que tous ces volets se déclinent, en fait, et soient vécus parfois de façon intimement mêlée. Parce que souvent, les gens pensent que le développement durable, c'est l'écologie, c'est l'environnement, c'est cela, mais c'est également autre chose. Je pense qu'on peut aussi dire que l'encyclique du pape François nous encourage tout à fait à ce sens. Protéger notre planète, protéger notre environnement, c'est aussi protéger l'homme, c'est le respecter. Voilà. Donc c'est une dimension qui est très très importante. Et dans les clubs qui participent, nous avons aussi le club danse. Et tous les ans, il y a un spectacle de solidarité qui est très animé par le club danse, mais parfois également la chorale et puis d'autres manifestations d'élèves, des fois des élèves qui agissent tout seuls. Et ce spectacle de solidarité est très important pour fédérer toutes les actions solidarité qui se vivent sur le collège et qui ne se vivent pas que à travers ce spectacle.
Est-ce que vous pouvez nous parler d'une action solidarité, par exemple ?
À l'international ?
À l'international. Alors, ou...
Cette année, nous avons eu un collègue en fait, qui est parti pour prendre avec sa femme une année vie différente. C'est-à-dire qu'ils sont partis au Centrafrique avec le CCFD.
Donc.
Voilà. Et donc, ils sont... lui est directeur d'une école, elle est infirmière, et dans cette école, en fait, très rapidement, il y a eu un échange à travers plusieurs liens, la pastorale, les éco-délégués solidarité, et puis de semaine en semaine, des projets ont vu le jour, et notamment, par exemple, permettre une collecte d'argent pour pouvoir aider à la création d'un potager là-bas. Donc on contribue aussi finalement à l'éducation de ces jeunes en Centrafrique. L'argent récolté a également permis de fabriquer des latrines pour les jeunes filles qui parfois ne se rendaient pas à l'école puisqu'il n'y avait pas le confort sur place. Et comme le projet de récolter en fait d'argent a vraiment bien fonctionné grâce à la vente de gâteaux par des élèves de 3e, cet argent va permettre également d'équiper le CDI avec des revues plus actuelles puisqu'en fait notre collègue nous disait que des revues dataient des années 80 par exemple.
On va vous remercier toutes les deux. Je crois savoir que c'est presque un boulot, pas à plein temps, mais c'est un deuxième boulot, non, coordinatrice et facilitatrice UNESCO.
Ça se vit aussi à travers notre travail, donc c'est les deux. C'est à la fois un petit peu du travail en dehors, mais c'est aussi, c'est à vivre tous les jours.
Ouais, mais vous travaillez aussi le dimanche soir.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Voilà, un grand bravo, félicitations à Aline Lesseau et Sophie Bruno qui sont respectivement donc coordinatrices et facilitatrices UNESCO au sein du collège Sainte-Marie de Chartres, dont on a vu qu'il est investi de manière collective avec les plus de 800 élèves de l'établissement dans une démarche de développement durable. Excellente fin de journée à toutes et à tous, restez à notre écoute, les programmes de Radio Grand Ciel se poursuivent.
Honey hair with my grateful tears.